Merci d'être avec nous, c'est Beurre FM que vous écoutez, il est 11h.
Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Allez bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Comme chaque dimanche, on passe une heure ensemble à parler de ciné à la radio. Et voici donc le programme jusqu'à midi. On va démarrer par la sélection des sorties ciné de mercredi prochain avec un cascadeur, des députés européens et des braqueurs piégés. Vers 11h30, ce sera le rendez-vous avec l'actu. Avec des chiffres records pour Netflix, la colère des acteurs du projet Blair Witch de 1999 et deux séries annulées. Mais avant cela, parlons de notre film coup de cœur de cette semaine qui sort ce mercredi et qui va nous accompagner durant toute l'émission. Petite Main nous emmène dans les coulisses des grands palaces parisiens, le genre d'établissement où le prix de la nuit dans les plus belles suites frôle le salaire annuel de ceux, et en l'occurrence plutôt de celles, qui permettent justement à ces suites d'être aussi belles. Les femmes de chambre nettoient et rangent pour un salaire et une reconnaissance bien trop basse, et parfois certaines en ont marre et tentent un mouvement social pour améliorer leurs conditions de travail. Souvent ça a été long, mais souvent elles ont eu gain de cause, et c'est d'un de ces mouvements dont est inspiré le film Petite Main, un film qui montre aussi qu'un mouvement social n'est pas que des manifs qui débordent dans les rues comme on en voit parfois à la télé, mais que ça peut aussi être plein de bonne humeur et plein de couleurs. Pour en parler, on a un beau plateau en ce dimanche, trois invités. Tout d'abord Nessim Chikaoui, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM, vous êtes donc le réalisateur de Petite Main, et puis deux actrices qui vous accompagnent, Lucie Charles-Alfred, bonjour.
Bonjour.
Et Maïmouna Gueye.
Ravi.
Bonjour.
Pour une fois qu'on dit bien mon prénom.
Je l'ai bien dit.
Ça vous est familier peut-être?
Eh bien pas tant que ça, mais... Je vous avoue que des fois, j'ai des bonnes inspirations.
C'est parfait.
Vous êtes bienvenus tous les trois sur Beurre FM. On est ravis de vous avoir et de parler. Enfin, je suis ravi, parce que j'ai arrêté de parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu en France. Je suis ravi donc de vous avoir pour parler de Petite Main. On a une tradition dans l'émission, je vous en ai parlé juste avant de démarrer. On propose à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, vous me la dites et je vais vous la poser. Et une question que vous ne voulez pas que je vous pose, celle-là, vous me la dites aussi, et comme ça je vous la pose pas. Oui. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les questions? Qui veut prendre la parole?
Vous en rappelez?
Moi je veux dire que quand même que sur la préparation c'était Lucie la plus sérieuse. Qui guidait tout le monde sur les questions.
Vous êtes joueur à Beurre FM.
On est joueur, exactement. Lucie,
alors,
peut-être.
La question qu'on a envie que vous nous posez, c'est le match, en fait la sortie du film. Il y a Paris Dortmund qui vont jouer, et donc de quel camp vous allez être quoi.
Donc du coup on vous la met à l'envers, vous me pardonnez l'expression.
Oui.
Donc vous dans quel camp serez?
Dans quel camp je sais si je suis plus Paris ou plutôt Dortmund?
Ou Paris ou le match.
Voilà, c'est ça, c'est le match ou le film.
Bon,
voilà,
d'accord.
Le match ou le film.
Bon, alors moi je pense que j'ai choisi, hein, si je fais une émission de ciné et pas une émission de foot,
voilà,
que j'ai choisi Petite Main.
Direct.
Mais la question que vous ne vouliez pas qu'on vous pose,
quelle pointure je fais?
Voilà.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que sur la tournée, on a eu beaucoup, beaucoup la même question. Comment est arrivé le projet? Donc, c'est pas une non-réponse de notre part, c'est plutôt une lassitude d'avoir tout le temps la même question, quoi.
Et ça permettra de parler d'autre chose.
Voilà.
Parfait. Allez, c'est noté. On a des questions, on a des super invités. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 28 avril. Bienvenue dans le 137e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Mis à part Petite Main, qu'est-ce qui sort ce mercredi en salle? Il y a The Fall Guy. The Fall Guy, c'est littéralement le mec qui tombe, c'est-à-dire le cascadeur. On est donc dans l'univers cinéma et je vous présente Colt Sivers.
Ah.
Hop, alors Colt Sivers, il est là.
J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réelle du film. Et elle, je la kiffe grave.
Entre nous, il faut que ça reste super professionnel.
Ouais, ça paraît un peu mal parti, avec cette réalisatrice dont il est visiblement très amoureux. Mais le destin vient parfois filer un petit coup de main.
La star de ce film a disparu. Il faut que tu le retrouves.
Pourquoi moi?
Tu retrouves Ryder, tu sauves le film de Jodie... Tu récupères l'amour de ta vie.
Le voici donc à la recherche de l'acteur héros, et il semblerait que ça ne soit pas si simple que ça pouvait paraître.
Tom ?
Oh la vache !
Un cadavre dans la glace ?
Il était méga mort, Gail. Mort de chez mort.
Il s'est mis à fréquenter des gens vraiment très louches.
Ils ont essayé de me tuer ! Et ils faisaient pas semblant.
J'ai pas eu le choix. J'étais obligé de passer en mode Jason Bourne.
Voilà donc le cascadeur qui va devoir utiliser ses talents dans la vraie vie et sans filet. Je crois que ça voulait faire réagir Nessim.
Oui, parce que Colt Sivers, ça m'a interpellé, c'est l'homme qui tombe à pic.
Alors non, c'est le nom du cascadeur en tout cas.
Parce que l'homme, ben non, parce qu'il y avait une série qui s'appelait L'homme qui tombe à pic, et je crois que c'était un cascadeur. Et il s'appelait Cold Silver, donc ok.
Alors peut-être que lui a repris ce nom-là, mais je ne crois pas que ce soit issu de la série L'homme qui tombe à pic.
De toute façon, c'est nul, faut voir le petite main le premier nez.
Comme ça, c'est fait.
il faut prêcher sa paroisse.
C'est ce qu'on va faire durant toute l'heure.
En tout cas, il y a de la place pour tout le monde, on rigole.
Oui. The Fall Guy, c'est donc un des films d'action US les plus attendus de l'année, avec au casting Ryan Gosling et Emily Blunt. Les deux acteurs ont indiqué durant la cérémonie des Oscars qu'ils étaient là pour fêter les cascadeurs qui sont une partie cruciale du secteur du ciné depuis le début du cinéma. Ce sont eux les héros qu'on ne reconnaît jamais, qui risquent leur vie et leurs jambes pour le cinéma. Des cascadilles, il y en aura donc beaucoup dans le film, et notamment celle d'une voiture qui a fait 8,5 tonneaux, un nombre record qui bat le précédent record de 7 tonneaux donc, qui était détenu depuis 18 ans par le James Bond Casino Royale. Autre film qui sort aussi ce mercredi, une affaire de principe complètement un autre style, avec Bully Lanners, Thomas VDB et Céleste Brunkel, un thriller politique tiré de faits réels. Nous sommes à Bruxelles en 2012. Du jour au lendemain et de manière un peu trouble, le commissaire à la santé est limogé. Des députés européens, dont José Bové, qui était pourtant son adversaire politique, mènent une enquête pour enquêter sur pourquoi il s'est fait limoger comme ça du jour au lendemain. Et cette enquête va les emmener sur un complot lié au lobby du tabac qui pourrait déstabiliser les institutions européennes jusqu'au plus haut niveau. Et puis enfin, encore un autre film qui sort ce mercredi, c'est Un petit truc en plus 2, et avec Artus, avec aussi Clovis Cornillac et Alice Belaïdi, une comédie pas toujours politiquement correcte sur un père et son fils qui viennent de faire un braquage et qui, pour fuir la police, s'incrustent dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés mentaux. Bande annonce.
Allez, on se casse. Allez.
Merde, y avait plus la bagnole.
J'étais garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Je vous présente Sylvain, les copains.
On peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Allez, va!
Yo, putain! Qu'est-ce que tu fous, là, toi?
T'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé,
moi. Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est ma petite bite!
Je sais que le passé c'est passé, mais il y a 4 ans que je peux me confier.
Remonte.
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh les vamères!
On vous emmène!
Et ça fait clic! Clic, clic, pam, pam, pam! Ma chérie, t'es trop séduisante.
Ah, oh là là, oh putain Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Je vous avais prévenu, c'est pas toujours politiquement correct, mais le réalisateur Artus a en tout cas voulu faire un film engagé qui montre ce dont sont capables les personnes atteintes d'un handicap mental. Il dit, elles ont un imaginaire incroyable qu'on ne rencontre pas ailleurs, c'est avec elles que je voulais faire un film, pas un film sur elles, mais un film avec elles. Ce film, c'est une colonie de vacances avec tous les moments de vie que cela suppose, mais puissance 1000, parce que l'histoire est portée et jouée par des gens qui n'ont pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Fin de citation, donc pour ce film de Artus, qui sort aussi ce mercredi.
Studio B, l'interview.
Encore quoi?
Des invisibles.
Oui, exactement. Mmh. C'est aussi une affaire d'invisibles. Mmh. Allez, on en arrive à l'autre sortie de ce mercredi, qui est notre film coup de cœur, Petite Main. C'est votre film, Nessim Chikawi. On retrouve donc au casting Lucie Charles Alfred et Maïmouna Gaye. Ce que je vous propose tous les trois, pour commencer, c'est de faire un résumé rapide du film.
Ok.
À trois. On va commencer par Nessim. À un moment, je dis top, c'est Lucie qui prend le relais. Et je redis top, c'est Maïmouna qui termine.
Bien.
Vous êtes prêts?
Allez.
Allez, c'est parti, Nessim.
Alors, c'est l'histoire d'une brigade de femmes qui travaillent dans un palace et qui nous permettent de voir l'envers du décor.
Et top, c'est Lucie qui continue.
Qui nous permettent de voir l'envers du décor et qui nous permettent aussi de voir les dysfonctionnements de la sous-traitance hôtelière. Et voilà, par le prisme...
Top. Par le prisme, Maïmouna.
Mais ça permet aussi, en fait, de parler de ces métiers essentiels que sont les métiers de femme de chambre, entre autres. Petite Main, de toute façon, le titre, en fait, est un peu universel et général parce qu'on est toujours les petites mains de quelqu'un.
Ah, ça c'est pas faux, ça c'est pas faux. Le film est notamment inspiré, hein, je l'ai dit un peu tout à l'heure dans l'introduction, par les mouvements de lutte des femmes de chambre du Palace Park Hyatt notamment, qui avait lieu en 2018 si je crois bien, mais aussi de l'Ibis Batignolles en 2021. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Nessim Chikawi, de traiter ce sujet?
Et pourquoi le palace plutôt que l'hôtel?
Ce qui m'a donné envie, oui, c'est encore une fois comme mon précédent film Placé, qui parlait du métier d'éducateur dans les foyers et les jeunes placés. C'était vraiment de montrer ces invisibles, de les rendre visibles du coup, et de glorifier ces gens et ces métiers qui permettent à des hôtels ou d'avoir ce luxe et ce prestige. Mais sans ces petites mains, bah, y a pas tout ça. Donc c'était important de les mettre en valeur et de les glorifier. Et pourquoi dans un palace? Bah, parce que je trouve ça quand même plus frappant et plus comment dirais-je?
Mais
plus
parlant. Hein,
ouais, plus parlant de déjà d'avoir une jeune fille qui vit en hôtel social et qui va travailler dans un palace. Le contraste est intéressant. Mmh. Et puis ces femmes justement qui vivent soit à une heure de Paris ou en banlieue, dans des HLM ou dans des logements plus et des quartiers plus précaires, de les voir se confronter à ce luxe tous les jours, c'est aussi intéressant.
Vous les aviez suivis, ces mouvements, peut-être, Maïmouna?
Écoutez, moi, j'en ai suivi plein parce que je suis une activiste du cœur, j'ai envie de dire, une féministe née. Et j'en avais entendu parler. Je ne suis pas sortie ce jour-là, mais je suivais effectivement surtout cette force, en fait, qu'elles ont déployée à rester quand même 22 mois. C'était ça, hein. Je pense qu'elles sont restées très très longtemps. Moi, c'est plus elles qui m'avaient marqué, en fait, ces femmes-là. Et c'est évidemment que je me rappelle de ça c'est, voilà. Moi, j'avais aussi d'autres. Pourquoi je vous disais qu'il y avait, on est toujours petite main de quelqu'un, c'est qu'il y a plusieurs luttes féministes déjà à mener. Et pour moi, ces femmes, c'est des guerrières aussi féministes, entreprenantes, des mères et qui se sont levées parce qu'elles n'en pouvaient plus. Leur cri, je l'ai entendu, ouais.
Comment vous êtes inspiré de ces mouvements pour le film?
Bah déjà, j'avais rencontré dès que j'ai commencé l'écriture, j'avais rencontré Rachel Keke.
Rachel Keke, pour la resituer, donc elle est aujourd'hui députée LFI à l'Assemblée nationale, ouais. Et elle est issue de ce mouvement qui lidait le mouvement.
Mais elle était avec d'autres, enfin
en chair et en os.
Oui, enfin c'était la leaduse, mais elle était avec d'autres, ouais. Parce que la lutte c'est toujours collectif, c'est jamais une personne. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est important de montrer aussi qu'il y avait d'autres femmes, notamment Sylvie, Fatima et d'autres femmes. Et donc je les avais rencontrées dès le début de l'écriture parce que moi c'est un univers que je connaissais pas du tout. J'avais suivi le mouvement et j'avais soutenu, mais je connaissais pas plus que ça. Et du coup j'ai rencontré des syndicalistes de la CGT qui avaient lutté, qui avaient accompagné ces femmes là et rapidement donc je les ai rencontrées dès le début de l'écriture, et puis j'ai pris des anecdotes. Ensuite, j'ai visité un palace aussi, deux trois palaces, et justement pour avoir
des
anecdotes.
Vous avez le budget pour avoir la plus belle suite?
Offert, parce que je suis une star. Non, mais j'avais rencontré par des contacts justement des gouvernantes ou des directrices commerciales qui me montraient justement le palace, les coulisses. Et c'est vrai que moi, ça m'avait directement frappé quand on voyait la chambre, et les couloirs. Et ensuite, je suis descendu dans les sous-sols pour voir l'endroit où il y avait les employés. Et juste ce changement-là, là, ce changement d'ambiance m'avait frappé. Et donc voilà, ensuite donc j'ai récolté beaucoup d'anecdotes, beaucoup de moments. Et puis j'ai essayé de mixer un petit peu les choses profondes et de la comédie. Parce qu'il y a ce qu'elle me disait, la plupart des femmes, c'est qu'est-ce qu'on s'est marré pendant la lutte. Et même au travail, c'est dur. C'est fatigant, mais elles ont des bons souvenirs et elles sont fières de travailler dans ces lieux-là. Donc c'est important de le retranscrire aussi.
On va en parler de ça. C'est vrai que c'est la vie de beaucoup de vos personnages. Il y a toute une galerie de personnages hein, dans votre film, dont le personnage d'Eva que vous jouez, Lucie. Oui. On va en reparler juste après la pause, parce que c'est l'heure de faire rentrer l'argent dans les caisses de la radio, comme je vous dis parfois. C'est Studio B que vous écoutez. On parle donc de Petites Mains jusqu'à midi sur Beurre FM. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Et jusqu'à midi, on parle du film Petite Main. Vous savez pas ce que c'est ? Voici un petit aperçu avec la bande-annonce.
Bienvenue au royaume des larbins.
Bon, je vous présente Eva, vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison.
Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 grammes à l'épice.
Tu viens m'aider, Kim Kardashian. Tu grouilles, j'ai pas que ça à faire.
Tu te recoiffes.
Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude Palace, c'est classe.
T'as attitude Palace, toi ?
9008 la nuit !
Bienvenue dans un palace.
Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales.
Tu sais ce qu'elles revendiquent, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail.
Je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ils veulent pas négocier.
Il y en a marre d'être invisible. Il y en a marre qu'on nous exploite.
Tu crois que ça sert à quelque chose tout ça ? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses là ? On est rien pour eux.
Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt.
On demande juste à être écouté et considéré.
Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie.
On lâche rien.
J'ai jamais vu des battantes comme vous.
C'est de Petite Main dont on parle ce dimanche dans Studio B, votre film Nessim Chikawi, avec à l'affiche notamment au casting Lucie, Charles Alfred et Maïmouna Gueye. Il y a toute une galerie de personnages hein, dont on a pu entendre quelques extraits. On rencontre très rapidement l'équipe de ménage du palace qui est présentée au personnage de Lucie. Donc le personnage d'Eva, le nom du personnage c'est Eva. Et donc c'est dans cette équipe que Eva arrive. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas vraiment accueillie très chaleureusement?
Bah, elle n'est pas accueillie très chaleureusement parce que c'est une externe. Et que, en fait, quoi?
oui, vas-y, vas-y.
Parce que...
Non, c'est parce que...
Vas-y, dis, monsieur.
Non, c'est pas parce qu'elle est externe, c'est parce qu'elle remplace...
Oui, elle remplace
divine.
Voilà. Par l'externalisation, du coup.
Exactement.
Parce que la sous-traitance fait qu'on t'envoie à n'importe quel moment et n'importe quand, très loin de chez toi, et que tu prends, en fait, finalement, la place de celles qui sont là depuis un certain temps.
Et pour le coup, là, elle prend la place d'une gréviste.
Et ouais. Oui, effectivement. Et que ces femmes-là, elles cherchent justement à être internalisées pour avoir de meilleures conditions, et notamment, bah... Les petits déjeuners aussi, le matin. De quoi se nourrir, la base. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien accueillie et voilà.
Vous faites référence donc à ce passage où y a un petit déjeuner qui est prévu uniquement pour les internes, donc pour les employés de l'hôtel. Mais les externes qui font exactement le même travail, on est bien d'accord.
Exactement.
Mais je trouve que ça n'a pas été très clair, même que moi, j'étais en train de voler un bout de personnage que je joue était en train carrément de dérober. J'ai l'impression que ça c'est pas
C'est pas dérobé, c'est qu'en fait la
il y a pas droit.
Elle n'y a pas droit, et du coup la syndicaliste qui jouait par Fatima Hadoum lui dit prends, de toute façon il en reste, on va les jeter. Mais sauf que c'est t'as pas le droit de d'être vu avec, sinon tu peux être licencié. Mais ce que me racontaient aussi les femmes de chambre qui étaient externalisées, c'est que par exemple elles ne prenaient même pas le même ascenseur que les femmes internalisées. Elles n'avaient pas le droit au plateau repas à la cafétéria. Et c'était vraiment un principe de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'on met les externes avec les externes et les internes avec les internes. Et de toute façon, le but à terme pour ces grandes entreprises, c'est de que toutes les internes partent en retraite et puis on ne prend plus que des externes parce qu'on délègue à cette boîte de sous-traitance de la gestion de ces femmes-là.
Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher, ça fait des économies, ça t'enlève la masse salariale sur ton bilan comptable. Et c'est surtout, tu gères, c'est toi avec moi, tu ne vois pas avec moi les vacances, les week-ends, machin. C'est cette boîte qui gère, vous ne faites pas partie de cette boîte, vous voyez, avec votre boîte de sous-traitance. Même les habits, elles n'ont pas les mêmes habits. Donc c'est ça qui est scandaleux, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment créer une brigade où il y a, les deux se confrontent, interne et externe, pour qu'on puisse bien voir la différence qu'il peut y avoir entre ces deux entités.
Et la sous-traitance, ça existe donc dans les hôtels, dans les palaces, mais ça existe
partout,
aussi dans plein d'autres endroits.
Le BTP, par exemple.
Il y a beaucoup d'entreprises
les livraisons.
Il y a beaucoup d'entreprises en général, si on parle du ménage, dont les femmes de ménage ne sont pas du tout.
Après, c'est différent parce que justement, j'en parlais avec la syndicaliste Tiziri. Elle me disait, par exemple, une banque ou une radio qui externalise des femmes de chambre, c'est même limite
des femmes de ménage, du coup.
On dort pas encore.
c'est pas très grave et c'est même compréhensible. Mais le problème, c'est de faire ça dans un hôtel. Et donc,
c'est le cœur de métier.
Et c'est ce qu'on dit dans le film, c'est qu'un hôtel sans chambre, donc sans femme de chambre qui nettoie ses chambres, c'est plus un hôtel, c'est un restaurant. Donc une radio ou une banque, bon, c'est normal, elle fait appel ponctuellement. Mais là, c'est le cœur de métier. C'est tous les jours, elles sont là, elles font les chambres tout le temps. Et si t'as pas de chambre propre, tu n'as pas de chambre à louer. Tu n'as pas de chambre à 8000, 16000 euros à fournir, quoi.
Mais qui est essentiel, quoi.
Ouais. Essentiel, en tout cas, surtout dans l'hôtellerie. Parce que...
Réelle prestation. C'est pas tout le monde, hein. Qui peut faire ces prestations-là de lit au carré, être minutieux, être rapide, être précis. Enfin voilà, c'est se servir de son corps, de ses mains. C'est une vraie prestation.
Qu'est-ce qu'on voit dans le film, c'est un vrai savoir-faire.
Oui, c'est un vrai savoir-faire.
Et c'est ce que votre personnage Eva donc va apprendre. Pour revenir à son arrivée, qu'est-ce que ça lui fait cet accueil un peu froid du reste de l'équipe?
Bah forcément, moi j'ai envie de me faire respecter. Donc bon, je leur dis que j'ai déjà de l'expérience, mais qui est moindre, du moins qui n'est pas la même comparée à l'exigence, merci, du palace. Ça me frustre pas vraiment, mais voilà, je vais essayer justement de prendre appui, pas sur elle, mais de en tout cas d'acquérir toutes les bonnes informations. Donc je vais savoir aussi rester à ma place et écouter ces femmes qui vont m'enseigner, me transmettre leur savoir, quoi.
Alors Maïmouna, vous, votre personnage chez Aïssata, il est déjà dans l'équipe qui est déjà sur place. Comment vous la décririez, l'équipe?
Alors moi je la décris comme une bouffée d'air. Elle est drôle, elle est humaine. Et elle est sympathique. Je pense que c'est comme ça que le scénario l'avait écrite. Donc voilà, ce qui m'allait absolument, parce que c'est ce qui fait que ce film soit aussi un film humaniste, un film humain en fait, de femmes humaines, d'êtres, parce qu'on dit les invisibles, en fait, c'est des femmes qui se lèvent le matin très très tôt, qui quittent un foyer, qui quittent des enfants, qui ont une famille. Et j'ai l'impression que quand elles sont dans ce genre de travail, en fait, leur être profond disparaît complètement pour laisser place à quelqu'une de formaté, quoi. Voilà, il faut que les cheveux soient bien tirés, il faut une tenue du corps, même, enfin, je pense que si elles sont voûtées, c'est avec l'usure de due à leur métier, mais c'est voilà, dès le début on te demande une tenue de corps, on te demande des petites boucles d'oreilles, moi qui adore les grosses boucles d'oreilles, en plus. Des petites boucles d'oreilles, des petites choses, petites mains, tu vois, il y a l'infiniment petit qui est toujours en fait dans l'appellation de ce métier, dans cette fonction, et je trouve que déjà ça veut beaucoup dire, quoi. Petite, tout doit être petit, tout doit être minutieux, tout doit être au carré. Tu vois, c'est
surtout
aussi
pas de coiffure extravagante.
Voilà.
Pas de mauvaise couleur de cheveux.
Non, c'est pour avoir une emprise dès le départ. C'est vraiment formater ces femmes-là. Donc voilà, moi, Aïssata, elle est pleine de couleurs si on regarde bien, en fait. Elle est voilà, c'est une
très belle équipe.
Et voilà, et tout le monde se soude, tout le monde est soudé. Non, c'est magnifique, ça reflète, ça devrait refléter le monde du travail, quoi.
Et dans cette équipe, il y a aussi Simone qui est jouée par Corinne Maziero. On en a pas parlé jusque-là, mais c'est une des têtes d'affiche du film. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez choisie?
Je l'ai choisi.
Elle est arrivée en plus après sur un rôle à contre-emploi. Elle est connue pour son rôle du capitaine Marlowe dans la série du même nom sur France Télévisions.
Ouais.
Là, c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas du tout. C'est même pas du tout Corinne dans la vie réelle, quoi. Parce que Corinne, en fait, c'est pourquoi je l'ai choisie, parce que c'est une actrice déjà une très grande actrice que j'avais adorée moi dans son rôle de Louise Wimmer surtout. Et puis c'est une actrice avec des convictions, des valeurs et qui fait des projets en accord avec elle-même et ses principes. Et donc voilà, c'est ce que je lui avais dit. Je dis, moi, ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir une comédienne pour avoir un nom, pour avoir ça, je m'en fous un peu. Moi, je suis très dans l'humain. Ouais. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la personne avec qui je vais bosser. Si t'as juste un nom mais que t'es relou, ça me sert à rien. Oui. et du coup, il me fallait aussi une actrice qui vienne et qui soit en accord avec les valeurs du film. C'est pas juste venir faire sa prestation et puis s'en foutre, quoi, des gens. Là, c'était important d'avoir une équipe. D'ailleurs, toutes les comédiennes et les comédiens, d'ailleurs, avec Cool Chain aussi, sont des gens avec des principes forts d'humanité et de sororité, de fraternité. Mmh. Donc voilà, comment est arrivé Corinne. Corinne et puis je lui ai présenté le projet et puis on a bu un petit verre ensemble avant qu'elle reparte dans le nord et juste en parlant elle m'a dit bon vas-y c'est bon je le fais, elle me dit juste laisse-moi lire 2-3 dialogues et puis après dans le train elle lit, elle m'envoie un texto, elle me dit bon c'est bon pour moi.
Elle paraît entière en fait comme
ouais, elle est entière, ouais. C'est ça hein, c'est faut composer avec sa personnalité mais c'est au moins c'est franc. Il n'y a pas de je te fais si ça comme ça. C'est je te dis merde, je te dis merde, je te dis OK, je te dis OK. Donc c'est
un peu à l'image de son personnage finalement.
Ouais, l'image de son personnage et c'est ce qui est intéressant et puis oui, elle est contre emploi parce qu'elle pour le coup, elle est contre la grève elle, parce que ça nuit à l'hôtel.
Oui.
Donc ça nuit à son travail et à son salaire. Ouais, oui, c'est pour ça que c'est un rôle de composition. C'est qu'elle, c'est la première, par exemple, sur le film. C'était à l'époque de la réforme des retraites, on tourne un jeudi, le mercredi, elle vient nous voir, elle dit mais demain il y a la marche pour la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis bah on tourne. Et donc elle dit non, mais on fait un film sur les ça et tout justement. Je lui dis bon après aussi le film met en lumière ces personnes, donc je ne pouvais pas me permettre d'aller marcher, de faire la grève. Et finalement, on a fait un compromis, donc on a tourné tout ce qu'on devait tourner le matin, et l'après-midi, on a fait la grève. Et on est parti marcher, on a fait la manif en tout cas. Et donc c'était un beau moment, mais voilà, c'est ce qu'elle nous a apporté aussi dans le film, Corinne.
Et en deux mots, vous avez parlé de Cool Chain, qui pareil arrive un peu de manière inattendue dans le film, dans le rôle d'un syndicaliste.
Ouais, alors ouais, il est inattendu dans ce rôle, mais il est pas venu.
Inattendu dans le rôle, évidemment. Mais dans l'extrait de la bande-annonce qu'on a entendu, il y a un peu son débit de rappeur qui arrive sur le scand au micro.
Bah ouais, les syndicalistes, ouais, il a le mégaphone. Donc d'ailleurs, on avait vécu un moment, c'était assez drôle entre les coupures de. Le tournage, il prenait le micro et rappait des textes de NTM à l'époque, donc c'était des beaux moments. Mais non, en plus je l'avais pas pris parce que on était fan avec la directrice de casting de NTM. C'est vraiment on voulait avoir un personnage qui décale un peu, avoir quelqu'un de un peu justement pour pouvoir en parler, d'avoir quelqu'un un peu d'inattendu. Et puis finalement, en le rencontrant et puis en discutant, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment la personne qu'il nous fallait, avec ce vécu, cette douceur et qui est là juste pour accompagner les femmes, mais pas pour être le leader. Donc c'était une très belle rencontre et très content qu'il soit dans le film.
Ça s'appelle Petite Main et ça sort ce mercredi en salle.
Studio B, l'actu ciné.
L'actu ciné avec Netflix qui est toujours premier mais qui ne le dira plus. En tout cas, ils le diront différemment. La plateforme de streaming a annoncé avoir 270 millions d'abonnés dans le monde, soit près de 10 millions de plus sur le premier trimestre 2024. En revanche, la communication de ces chiffres trimestriels ne durera pas. À partir de 2025, Netflix a indiqué qu'ils ne communiqueront plus que sur le temps passé sur la plateforme. C'est pas le nombre de personnes qui sont abonnées, mais le temps que ces gens passent sur la plateforme, ce qui serait selon eux le meilleur indicateur de satisfaction du client. Selon eux, en tout cas, le problème est que le nombre d'abonnés ne peut croître éternellement et qu'une stagnation serait un mauvais signal envoyé aux actionnaires. Le temps que les gens passent sur Netflix pouvant lui encore augmenter, ce serait un chiffre plus intéressant à donner pour eux. Le casting original de Blair Witch n'est pas content et le fait savoir. Les trois acteurs du casting original du film d'horreur fondateur ont envoyé une lettre ouverte au studio Lionsgate qui projette de rebooter le film. Ils ont des revendications, à commencer par de l'argent, car ils estiment que le producteur de l'époque n'avait pas respecté les conventions syndicales et dans l'industrie du cinéma américains, les syndicats sont vraiment très très puissants, preuve en est les grèves qui ont encore paralysé l'industrie l'année dernière. Ils réclament aussi d'être consultés sur les prochains reboots annoncés et la création d'une bourse Blair Witch pour aider les jeunes réalisateurs. Le studio Lionsgate n'a pour l'instant pas encore réagi. Et puis, deux annulations de séries pour terminer. Si vous étiez fan de Game of Thrones, vous allez être déçu d'apprendre que la série spin-off sur le personnage de Jon Snow est annulée. La série était en développement mais la bonne histoire à raconter n'a pas été trouvée selon l'acteur Kit Harington. Et si vous étiez aussi fan des experts, vous allez passer une mauvaise journée, parce que j'ai une seconde mauvaise nouvelle pour vous. Les Experts à Vegas, c'est terminé aussi. La série originelle avait fait 15 saisons entre 2000 et 2015 et avait été relancée en 2021. La troisième saison, qui marchait pourtant bien niveau audience sur CBS aux États-Unis, se terminera le 19 mai sans saison 4 annoncée. Voilà pour les news. On va reprendre ce Studio B sur le film Petite Main avec Nessim Chikawi, le réalisateur, avec Lucie Alfred et Maïmouna Gaye qui jouent dans le film. Vous nous avez amené un souvenir du tournage, je crois. On va mettre une photo de ce souvenir sur les réseaux sociaux. Vous qui nous écoutez, si vous... vous avez Facebook, je pense que vous avez Facebook, vous pouvez directement nous rejoindre sur la
page Facebook de
Studio Facebook, c'est ouais. Ça. Rejoignez-nous sur la page Facebook de Studio B, on va mettre en photo ce dont quoi on va parler dans quelques secondes, et on revient dans quelques secondes donc pour en parler. C'est Studio B jusqu'à midi sur Beurre FM.
jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
C'est tous les dimanches de 11h à midi et puis quand vous voulez aussi en podcast, puisque vous nous retrouvez sur l'application Beurre FM, sur beurrefm.net et puis sur toutes les applications de podcast en podcast, donc quand vous voulez, le matin en allant au travail ou en revenant du lycée le soir, bref, quand vous voulez, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Nos invités pour parler du film Petite Main, Nessim Chikawi, également Lucie Charles-Alfred qui joue dans le film, et Maïmouna Gueye. J'espère que je ne me suis pas prononcé cette fois-ci sur les prononciations ou sur les bouts de prénom, etc. Toutes mes excuses.
Tout va bien.
Je crois que je me suis un peu trompé. Sur...
Moi, vous avez été super, moi, en tout cas.
Voilà. Ça nous a donné le sourire.
Toujours se mettre le réalisateur dans la poche, c'est quelque chose.
Il y a un rôle pour vous bientôt.
Voilà,
ça se
c'est ce que je cherche. On en parlera tout à l'heure. Allez, on a mis en ligne sur la page Facebook de Studio B une photo souvenir que vous nous avez ramenée, Nessim.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Il y a un t-shirt.
C'est un t-shirt, voilà, qui était arboré par tous les participants dans le film, mais qui était réel aussi. C'était des t-shirts Je soutiens la grève. Donc voilà, je vous dirai pas quel personnage je le mets à un moment, parce que c'est un moment émouvant du film. Mmh. Mais en tout cas, oui, c'était ça. Et puis moi, il y avait la particularité, le petit kiff du fan d'NTM. J'avais un petit tag de coup de chaîne derrière. Voilà,
c'est stylé.
Petit souvenir. Voilà. Okay. Il est dans un cadre chez moi.
Et ben voilà, la photo en tout cas est en ligne sur la page Facebook de Studio B. Lucie Charles-Alfred, votre personnage, oui, donc, s'appelle Eva, un nom à la consonance semblable à Emma, oui, qui était votre personnage dans le précédent film de Nessim, qui s'appelait Placé.
Ouais.
Voilà, c'est pas le même personnage puisque c'est pas le même nom, ouais, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun, Emma et Eva?
Bah, ce qu'elles ont en commun, c'est que elles font face à la protection de l'enfance. Emma, c'était une jeune fille qui a grandi en foyer et qui a été mise à la rue par une sortie sèche dès ses 18 ans. Et là, Emma, justement, elle est en hôtel social vu qu'elle a 20 ans et je sais pas si je peux pas spoiler, mais ouais, mais en tout cas, voilà. Qui va bientôt avoir 21 ans, qui est dans des conditions précaires et qui est toute seule, quoi, qui est toute seule face à la vie, donc qui est pas dans les meilleures conditions, mais qui s'en sort très bien.
Est-ce que vous avez pensé à reprendre le même personnage?
Ouais, oui, c'était une volonté. Justement, c'est pour ça que je l'ai appelée Eva, mais ça dépendait aussi parce que pour le rôle d'Ali, joué par Abdallah Sharki, ça devait être peut-être un autre acteur qui était dans Placé. Oui. Et c'est à ce moment-là que je dis, ah putain, si c'est le même personnage, on va pas comprendre que c'est une suite, puisque c'est les deux mêmes qui étaient ensemble. Oui. Et puis après, oui, c'était une vraie volonté, mais c'est pour ça qu'il y a ce suivi. C'était un personnage que j'ai beaucoup aimé, un de mes préférés dans Placé, et notamment la prestation de Lucie, en plus, qui m'avait donné envie de continuer avec elle. Et du coup, c'était une vraie volonté. Bon, c'est un clin d'œil pour ceux qui auront vu le placer, quoi.
Et pourquoi ne pas lui avoir donné le même prénom, alors? Comme une suite logique.
Ouais, parce que.
Maïmouna, je vais vous embaucher.
Et parce que, par exemple, dans le film, il y a trois acteurs de placer, des jeunes, qui étaient en figure.
Ok.
Et on les voit dans le film, et donc c'était un peu trop déroutant, je trouvais. Moi, je voulais vraiment qu'ils apparaissent dans le film, parce que y a cette fidélité, et puis ce truc de... On a vécu une aventure commune, donc voilà, je voulais qu'ils en fassent partie aussi. Donc c'était avec Max Fidel, Cyrine Verroust et Inès Benamara, qui étaient dans Placé. Et là, on les voit en figure, ils ont accepté de juste faire de la figuration.
Et Moussa.
Et Moussa, qu'on voit aussi, qui joue le fils de Marissona, donc de Safietou. Donc voilà, c'est pour ça, c'est qu'on a des personnages qu'on avait vu dans Placé, et du coup ça aurait été déroutant de dire, bah attends, mais si c'est Emma, pourquoi il y a François, Samir?
Ouais, voilà. Surtout que Emma, en plus, elle, ce qu'elle aime, c'est la petite enfance, et elle travaille... mais bon, vous regarderez le film, mais en tout cas, voilà, elle, son truc, c'est les enfants, et Eva, c'est les femmes,
donc,
les chambres.
Donc c'est pas complètement
c'est pas complètement
un petit peu, on peut se dire que c'était une étape, oui, dans sa vie, la petite enfance, sûr. Ensuite...
Mais on peut...
Mais oui, voilà.
Est-ce que c'est pas une manière déguisée de parler de votre premier film Placé, monsieur?
Voilà, je voulais placer, exactement.
Bien placé, hein.
Mais oui, c'était ça aussi. C'était de se dire, déjà le sujet de la protection de l'enfance, je voulais quand même en garder une trace.
Oui, ça permet avant tout de réaborder ce sujet.
Ouais, ouais, c'était important pour moi. C'est quelque chose qui a marqué ma vie. Moi, j'ai été éducateur pendant 10 ans. Et donc quand on fait ce métier éducateur, ça nous laisse pas indemne. C'est tellement fort en émotion et ça te construit vraiment une personne, ce métier.
Donc, et sujet particulier de ces enfants qui, à 18 ans, lorsqu'ils sortent du système qui les protège, ils se retrouvent à un moment sans rien du tout. Quoi.
Ouais. Donc là, c'était 21 ans. Mais si tu n'as pas de contrat jeune majeur, je ne sais pas si ça a évolué, mais il me semble que non. Mais à 18 ans, tu peux être accueilli depuis tes 2 ans ou même tes 6 mois en pouponnière. On te garde jusqu'à 18 ans. Et si tu n'as pas de contrat jeune majeur parce que ton profil n'est pas assez bon, soi-disant, pour tout ce qui est administration, à 18 ans, tu peux te retrouver à la rue, surtout si tu n'as pas de personnes ressources, ouais, garantes. Ouais. C'est-à-dire, si tu n'as pas de famille, d'oncle, d'amis, ouais, tu te retrouves à la rue. Et il y a 25% des SDF sont des anciens enfants placés. Ouais, qui ont eu un parcours avec la protection de l'enfance.
C'est presque un échec de la protection de l'enfance. Enfin, si c'est protégé pour au final.
Ouais, y avait une mesure qui aurait été pas mal. C'était d'accompagner les jeunes jusqu'à au moins 25 ans, qui est l'âge général des gens qui partent de leur foyer familial. Ouais, ouais. Moi, je suis parti à 27 ans de chez mes parents, donc par exemple. Et c'est vrai que ça te laisse le temps quand même de te construire. À 18 ans, t'es encore un bébé.
Bah,
franchement, moi, jusqu'à 27 ans, j'étais encore un bébé. Ouais. Je le suis encore. D'ailleurs, à 40 piges,
on est tous des grands bébés.
Mais c'est vrai. Et ce qu'on disait, c'est que dans le film,
on demande à des jeunes. Ouais, c'est ça. C'est qu'on demande à des jeunes qui sont déjà en situation de précarité, de violence, d'avancer plus rapidement, d'être plus autonome que des jeunes qui ont la chance d'être dans un foyer sain, voilà, relativement. Et on demande à ces jeunes d'aller plus vite, c'est insensé.
Et de
se construire plus rapidement et de faire des choses plus rapidement. Et alors qu'ils ont déjà énormément d'infos, on leur rajoute des infos, ça crée une explosion, une angoisse.
Ouais. Oui, forcément. Les rendre à la nature.
Et donc, c'est pour ça qu'on voulait continuer. Bon, là, pour le coup, Eva a un contrat jeune majeur et c'est pour ça qu'elle est en hôtel social. Et donc, et ça me tenait à cœur aussi, je ne l'avais pas montré d'en placer, mais on en parle. Mais je voulais montrer aussi ce que c'est d'être dans un hôtel social, de vivre seul. Moi, quand j'étais éducateur, j'avais des jeunes, je suivais en AEMO des jeunes, et on leur donnait des tickets 5 euros midi, 5 euros soir, 5 euros d'hygiène. Mais c'est pas évident, c'est-à-dire que déjà tu te nourris mal avec 5 euros.
Pour manger,
tu te nourris. Tu fais que des grecs, et encore maintenant avec l'inflation, c'est plus cher. Tu n'as pas de micro-ondes, tu n'as pas de plaque. Donc le but, c'était vite d'aller en foyer jeunes travailleurs. Là où tu pouvais accéder, même il y avait les douches, comme on voit dans le film, c'est des douches partagées sur le palier. Donc voilà, c'était important pour moi de montrer un peu cet univers-là aussi. Et en plus, je trouvais ça super, je me jette des fleurs, mais c'était cool aussi de montrer un hôtel social en face et un palace. Montrer l'aspect et cette femme qui nous emmène entre les deux, voilà.
Pour revenir sur le palace, justement, mais en même temps, ça fait aussi un lien avec Placé. On y voit une équipe soudée qui s'entraide et qui arrive à gagner des droits comme ça, des avancées grâce à leur mobilisation collective. Est-ce que c'est aussi un peu un film sur la force du collectif ?
Ouais, surtout, surtout avec la situation, avec notre
l'union fait la force.
Voilà, l'union fait la force. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Et en Afrique, on dit avec une seule main, on peut pas applaudir, mais avec deux mains, on peut faire beaucoup de bruit.
C'est exactement.
Ouais. Voilà.
Donc oui, non, c'est important de montrer que dans cette société, vaut mieux, surtout maintenant, être solidaire. Et montrer aussi avec le prisme du film que la lutte paye aussi et que pour avoir gagné des droits, c'est pas en attendant, c'est en luttant qu'on les obtient aussi, quoi.
Dans un monde comme ça un monde du travail où les syndicats sont moins forts, en tout cas ils ont moins de place aujourd'hui qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans.
C'est évolué, bien sûr.
Est-ce que ça peut être aussi un espoir pour eux, parce que finalement le fait que ces femmes de chambre soient aidées par les syndicats, ça les aide pour le coup.
Bien sûr, d'ailleurs après le film il y a beaucoup de gens qui disaient je vais me syndiquer. Donc c'était pas mon intention première, parce que moi je suis personnellement, j'ai jamais été syndiqué, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'avait fait Margaret Thatcher. D'ailleurs, j'avais vu un film avec de Ken Loach que j'aime beaucoup, justement, qui expliquait que l'Angleterre de Margaret Thatcher, c'était de casser les syndicats parce qu'ils prenaient trop de pouvoir. Donc en France, on essaye aussi. C'est-à-dire qu'on ne passe même plus par le dialogue. Et le film, c'est justement un film sur le dialogue social. Et les syndicats permettent ça. C'est de discuter, de faire un lien entre les travailleurs et les employés. Alors évidemment, j'imagine que quand t'es employeur, ça peut être un poil relou. J'ai un pote qui est directeur de... de, comment on appelle, des ressources humaines.
Il est RH.
Il dit, ah, putain, les syndicats, c'est dur. Ben, ça va être des négociations pour tout et pour rien, quoi. Mais, force est de constater que sans les syndicats, enfin, il n'y a pas de, d'avantage, il n'y a pas de, juste le respect peut-être des travailleurs. Enfin, il y en a aussi, mais c'est important, les syndicats permettent ça aussi, quoi.
Dans les personnages, un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est celui d'Agnès, qui est un peu la manageuse de l'équipe, ouais, des femmes de chambre.
Maria Maguey, ouais.
Quelle relation est là avec vos personnages, peut-être Maïmouna?
Ben, en fait, moi, c'était comment dirais-je, une relation assez distante. Enfin, juste, je lui demandais, vous voyez, je parlais que de bouffe, tiens, ce personnage ne parlait que de ça. Et elle cherchait toujours, évidemment, à avoir des avantages aussi, à lui dire, est-ce que le jour de Noël, on peut avoir, par exemple, un peu de champagne pour se taquiner le palais, tu vois, et tout. Ça, voilà, en fait, la relation que j'ai avec elle, c'est un peu...
Elle est dure, quand même.
Ah, mais ce personnage, c'est vrai que c'est...
C'est pas la manageuse facile, quoi. Elle leur impose.
Mais c'est la hiérarchie nécessaire, en fait. On parle beaucoup d'essentiel, mais en fait, son personnage est existant. Hein. Je veux dire,
il est important parce qu'il montre aussi la complexité qu'on peut avoir. C'est-à-dire, en plus, c'est pour ça que j'avais pris une femme noire aussi. C'était important, c'est de dire que Agnès, peut-être que sa mère a des problèmes administratifs, peut-être que ses tantes aussi. Donc, elle comprend les enjeux que peuvent avoir ces femmes qui ne sont pas internalisées, qui sont embauchées par la sous-traitance, qui a des conséquences sur leur dossier à la préfecture. Et donc, c'est important de montrer aussi qu'elle est entre le marteau et l'enclume. Et c'est la réalité dans beaucoup de gens qui bossent. C'est-à-dire que je comprends, mais j'ai pas le choix non plus. Moi, il faut que je fasse au mieux gérer ces femmes.
Chacun a son bout de drap à défendre. Ouais. Quoi. Donc,
puis le fait qu'elle soit plus jeune aussi.
Aussi.
Peut-être que sa mère a été femme de ménage et qu'elle a travaillé pour qu'elle puisse gravir les échelons. Et donc, du coup, il y a cette niaque aussi qu'elle a en elle pour dire, écoutez, je suis avec vous, mais j'ai ma place aussi à défendre. Donc, s'il vous plaît, genre, limite, aidez-moi. Parce qu'elle était là aussi à la manif, tu vois, mine de rien.
Elle vient
au
film.
On la voit. Elle amène au bout de gâteau.
Non, faut pas spoiler.
C'est un autre film.
Tiens. C'était Grande Main, Grandes Oreilles. C'est ça.
Ah, tu confonds. Non, mais ce personnage aussi, il est important pour montrer que dans notre société, c'est pas tout blanc, tout noir non plus. C'est que t'as toujours une aspérité et t'as cette zone grise qui fait qui dicte un peu la vie de tout le monde.
L'humain aussi. Hein.
Ouais.
Mais comme le personnage de Simone, au moment son humanité revient au galop, quoi. Donc, voilà.
Et un autre personnage qui navigue un peu comme ça entre deux mondes, c'est celui d'Ali, joué par Abdelacharki, qu'on a vu récemment dans le film Ma part de Gaulois, dont on avait parlé sur Beurre FM. Il est équipier, lui, et il a pas vraiment envie de remplacer les femmes de chambre. On sent que
c'est pas facile pour lui. C'est pas son objectif. C'était pas de faire le métier de femme de chambre. Lui, c'est équipier. Lui, il a d'autres aspirations. Il a envie de monter. Il a envie d'évoluer dans ce truc. Donc, il a l'impression de lui, au contraire, régresser. Et alors, en plus, c'est pas de sa faute pour lui, hein. Puisque quand elle part en grève, elle dit attends, pourquoi elle se plaigne.
Il vient aussi un peu casser la grève, mais ça sert à rien, quoi.
C'est ça. Mais ce qui est une réalité aussi, hein, ça veut dire que le but, c'était pas de glorifier forcément la grève, parce que la grève, c'est quelque chose de dur, de fatigant, et si tout le monde peut se passer de la grève, personne n'a envie de faire la grève, hein. Tu perds de l'argent, de l'énergie, et c'est fatigant. Donc c'est important d'avoir des discours qui diffèrent aussi, quoi.
Ouais, mais et puis il y a la jeunesse aussi, c'est le discours de la jeunesse.
Ouais.
Quand on est jeune, il y a de l'espoir, il y a l'avenir, tu peux voir un peu plus loin, alors que ces femmes, souvent, ont des familles derrière elles. Et donc, du coup, leur vision est beaucoup plus proche de la lutte, de lutter pour vivre, pour survivre. Donc c'est bien qu'il y ait ces divergences, ces oppositions-là.
Et ce personnage, c'est aussi celui qui, dont Eva va se rapprocher, on va dire.
Oui, c'est ça. Ça ramène de la légèreté au film, ça ramène une
du romantisme.
Oui, du romantisme, c'est ça, une certaine romance qui fait du bien, je pense.
Et ouais. puis
les voix, oui, deux.
Charmant,
il a un sourire gêné.
Il est charmeur.
Oui, il est très charmeur.
C'est un grand charmeur,
hein.
Abdallah.
C'est un grand charmeur, Abdallah. Alors, Charki.
Abdallah Charki.
Mais il est très talentueux. Il est très gentil, très talentueux. Et vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec lui.
Ouais, il est.
Dédicace à Abdallah Charki.
Voilà.
Il y a une séquence dont je voulais parler. C'est un moment fort du film, quand même. On ne le spoil pas, puisqu'on le voit dès la bande-annonce. vous voyez où je veux en venir. C'est le fameux défilé.
Ouais.
Le fameux défilé. Alors, c'est pas un cortège de grévistes ordinaire. Hein.
Non. Mais alors ça c'est une réalité, c'est que les femmes du parc Hayat, donc le parc Hayat qui est un palace qui est à Place Vendôme, qui sous-traitent. Alors il faut savoir qu'il y a la plupart des palaces ne sous-traitent pas, ils internalisent. Mais en tout cas pour le coup le parc Hayat eux sous-traitent et du coup ces femmes pour se devenir plus visibles en tout cas décident de faire un défilé. C'est la réalité, c'est ce qu'elles ont fait. Alors c'était moins grandiloquent et moins somptueux que dans le film.
Forcément, c'est du cinéma.
Exactement. Mais donc voilà, elles l'ont fait. C'était pour leur rendre hommage. Et c'est leur idée. C'est leur. C'était leur truc. Donc.
Je trouve que c'était pas mal aussi de faire péter les couleurs,
ouais.
Si j'ose dire. Parce que voilà, avec ce côté un peu rigide des femmes de ménage, ouais. Des femmes de chambre, avec leur tenue un peu étriquée, ouais. Un peu ajustée. Là, au moins, elles se marrent, elles explosent leur intérieur,
ouais.
Qui se reflète vers l'extérieur. Moi, je trouve ça, ouais. Très juste, bah, et très marquant, justement, cette scène-là.
Bah, je l'ai pas fait que pour avoir une belle scène. C'était parce que ça a du sens. Et c'est vraiment, ça résume tout le film. C'est cette liberté, on se lâche, elle rayonne. Et beaucoup de gens pleurent à ce moment-là. Alors que bon, c'est une scène très joyeuse et tout, mais c'est tellement beau de voir ces femmes qu'on a vues, voilà, courber les chines et être sous emprise, de se lâcher et de marcher des belles robes, des belles coiffures et être aussi fière.
Exister quoi,
ouais,
finalement.
Ouais, exactement.
On sort de l'invisible, on se rend visible et on existe et on a des choses à dire même à travers notre corps, le mouvement, la danse, le chant. Partager de la nourriture, vraiment se rassembler, être dans le partage et lutter aussi dignement avec la tête haute, quoi. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. En plus, en étant une femme, de pouvoir sortir dans la rue et s'affirmer, quoi, exister.
Je trouve des guerrières.
Des guerrières, ouais.
Mais des guerrières, ouais, festives.
Des guerrières, ouais. Festives avec le sourire et l'envie de transmettre et de dire non, quoi. Et c'est OK de dire non pour défendre des droits et des conditions.
Ouais, et puis. Non, mais c'était important de montrer ce mouvement tel qu'il a été. C'est-à-dire que ce mouvement a été connu et médiatisé parce qu'il était solaire et il était rayonnant. Mmh. Et ces femmes dansaient, chantaient, rigolaient. Servaient à manger aux gens qui passaient avec leurs marmites. Est-ce que vous racontez Fatima?
Mais faut pas parler de ça non plus.
Si, parce que non, mais si, parce que c'est la réalité. C'était des femmes qui servaient le couscous, le mafé, ouais. le bœuf bourguignon. Ouais. Il y avait de tout et c'était mais à tous les passants et c'était beau parce qu'il y avait même des images où des gens un peu fortuné, parce que quand tu te payes 16 000 euros la nuit, mais venez soutenir ces femmes de chambre et venez manger avec elles ce genre de plat.
Bah ouais.
Et c'est beau, c'était ce mélange de classe sociale et d'union, c'est ça qui est beau.
C'est peut-être ça qui a aidé aussi, qui les a aidés pour à ce que les hôtels plient, si les clients commençaient à avoir de la sympathie pour
Parce que le but du film, c'était pas déjà de taper non plus sur les clients, parce que chacun fait ce qu'il veut de son argent.
On les voit peu.
Mais on les voit pas. Parce que justement, le but c'était pas ni de taper même sur les hôtels, c'est de montrer une situation et de dire regardez, voilà, bah, c'est ces gens-là dont on parle et c'est ces gens-là qui subissent toutes vos décisions. Et le but c'est pas de taper ou d'être mauvais. Faut pas être bête, faut pas dire les gentils c'est les pauvres, les riches c'est les méchants. C'est encore une fois, l'humain c'est différent. Il y avait plein de personnes fortunées qui aidaient ces femmes de chambre, qui laissaient des gros pourboires, qui soutenaient sur les manifs, donc Donc voilà. Faut...
Et puis peut-être un des derniers sujets du film aussi, que, enfin, en tout cas que j'ai trouvé, c'est il y a ce personnage de Simone qui a peur de la retraite un petit peu. Elle veut continuer jusqu'au bout. C'est dur, mais elle veut continuer jusqu'au bout.
C'est
aussi un film sur cette question bien réelle, mais finalement très peu abordé au cinéma. Les gens qui veulent continuer à travailler, ils veulent pas partir à la retraite.
J'avais pris exemple sur mon père, moi, par exemple, qui arrivait tard enfin tard. Il arrivait en France à 18-19 ans, il vient de Tunisie, et donc il n'était pas déclaré au début, et donc ses mensualités ont été décalées, mais ce qu'il dit, il me dit « mais moi je me fais chier quand je bosse pas ». Et donc c'est vrai, mais le problème c'est qu'on ne montre pas à ces gens qu'il y a une autre vie possible, c'est pour ça que bon, on montre, il y a des activités, pour Simone en tout cas, qu'on comprendra dans le film, mais de montrer qu'il n'y a pas que, l'humain n'est pas fait juste pour travailler, se casser le dos, pour enrichir des personnes, il y a d'autres voies qui sont possibles, mais il faut qu'on... Pour entendre aussi que bah, pour des gens, ça rythme la vie quand même,
bien
travail.
Sûr,
et donc, il y en a qui en ont peur de s'arrêter.
Oui, il y en a une que j'ai rencontrée, moi, personnellement, la dernière fois à Mediapart. Et on peut citer d'autres concurrents.
Ah, bah voilà, trop tard, c'est fait maintenant. C'est pas concurrent, c'est la presse écrite.
Donc, et qui disait, qui a relevé plusieurs fois qu'elle aimait son métier. Qu'elle aimait son métier. Mmh. Je pense que le fait aussi d'avoir, le fait de vivre en banlieue, parce qu'elle vit très loin et tout, avec la réalité de son foyer, et de venir dans ce luxe aussi, tu vois, c'est une deuxième vie, hein. Et c'est son deuxième foyer, puisqu'elle y passe la majeure partie de son temps. Donc voilà, elle me dit, j'aime mes collègues. J'aime être là, j'aime le chrono, parce que le chrono, moi, ça me choque, évidemment, le chrono, parce qu'elles sont chronométrées pour faire un lit, une chambre, c'est vraiment, le côté humain n'existe plus. Elle aime même ce côté un peu cocon où elle doit faire, avoir le devoir accompli d'une chambre bien faite et tout. Donc, il y en a qui aiment... Et
peut-être le mot de la fin.
Oui, bah non, mais je voulais rajouter aussi que aussi il y a cette peur du vide. En fait, il y a cette peur de se retrouver sans rien. Mmh. Et forcément, c'est des femmes. En fait, il y a une question de non-estime de soi-même qui est conditionnée justement par la société et du fait qu'on les rend invisibles et qu'on leur laisse pas le droit à la parole. Donc en fait, ça va jouer sur un manque aussi affectif qu'elles ont pour elles-mêmes. Donc en fait, ça va venir dérouter sur on ne prend plus soin de soi, on ne pose pas ses limites et on se jette dans le travail parce qu'on a que ça et c'est que ça qu'on a une main prise, enfin sur quoi on peut s'accrocher. Mmh. Et donc même quand on se tue le dos, qu'on est clairement jugé inapte, on a très peur après de la suite de se dire mais en fait j'ai pas passé mon temps à me poser des questions sur moi-même, ce que j'aime et ce qui me fait du bien. Et donc t'arrives là sans travail, tout ce qui quitte à donner corps et âme, hein, finalement, c'est ça. Et puis, tu te retrouves sans rien. Donc, je pense qu'elle est là aussi, la complexité. Et c'est pour ça que Eva, dans le film, elle incite Simone à prendre soin d'elle et que la rassurer, la nouvelle génération arrive remplie d'espoir et d'affirmation. Et la lutte paye et la lutte continue. Le combat continue.
La suite, c'est dans le film. Ça, c'est une bonne fin. Le combat continue. La suite, c'est dans le film. Ça t'appelle Petite Main. Ouais. C'est en salle ce mercredi. Merci beaucoup, Nessim Chikaoui, réalisateur du film. Merci à Lucie, Charles Alfred et à Maïmouna Gueye pour d'être venus nous voir ce dimanche matin sur Beurre FM.
Foncez le voir.
Ouais. Allez-y doucement, parce que c'est mercredi quand même.
Ouais, mercredi 1er mai, let's go.
Oui, justement, le mercredi, voilà, c'est un jour férié.
C'est le travail en plus comme un symbole.
Exactement. Oui, la date a été choisi par hasard?
Non, c'était voulu pour le symbole.
C'est prémédité, bien sûr, au cinéma.
Il n'y a pas de hasard au cinéma. Allez, retour de la musique sur Beurre FM. À partir de 14h, vous retrouverez Monde pour votre rendez-vous Kabyle du dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, entre 11h et midi. D'ici là, vous pouvez retrouver les podcasts sur beurrefm.net et sur l'application. À dimanche prochain, donc. Et d'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.